Alors, nous allons prendre maintenant David, d'abord le chapitre 27 de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 27. Alors là, David est découragé, manifestement découragé. Il dit, je périrai un jour par la main de Saül, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire. Ainsi j'échapperai à sa main. David, qui avait si bien su dominer la situation au moment de Goliath, où Goliath effrayait toute l'armée d'Israël, et lui il s'avance et il s'en rend vainqueur, au nom de l'Éternel, il n'a pas peur, il a la foi. Et puis le voilà ici, poursuivi par Saül, il a peur de Saül. Il avait un courage magnifique, un courage au-dessus de tout ce qu'on pouvait concevoir à ce moment-là, puisque en Israël, devant Goliath, tout le monde tremblait. Il n'y avait pas un seul qui voulait se mesurer avec lui. Et lui, David, il vient. Et il avait donc à ce moment-là une foi. Et maintenant, là, voilà, tout est dégringolé, c'est le cas de le dire. Et il n'a plus rien, il n'a plus de courage, il n'a plus de foi, il n'a plus rien du tout. Puis alors il dit, vous voyez, voilà ce qu'il confesse, nécessairement, à un moment ou à l'autre, Saül va me saisir et me tuer. Voilà, il se voit mort d'avance par la main de Saül. Alors il se réfugie au pays des Philistins à nouveau. À nouveau. Le roi Saül était d'autant plus jaloux de David que nous voyons dans les textes que David réussissait dans toutes ses entreprises. Il était loin de l'Éternel, il était destiné à quelque chose. C'est un homme qui, quand il était dans le mouvement, savait mettre sa confiance en l'Éternel, il avait une foi spontané, il réussissait donc dans toutes ses entreprises. Il plaisait à tout le peuple aussi, nous dit 1 Samuel 18, l'Éternel était avec David et Saül ne le supportait pas. Il ne supportait pas que l'Éternel soit avec David alors que l'Éternel s'était retiré de lui, Saül. Il ne supportait pas cela. 1 Samuel 18, 12. Pas plus que qu'un ne supportait que l'Éternel ait porté un regard favorable sur l'offrande de son frère Abel. Il ne le supportait pas. Nous avons à ce point de vue-là quelque chose d'équivalent à ce qui s'est passé au lendemain de la sortie d'Éden. Et puis, alors, on chantait, naturellement, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ainsi, plus que jamais, Saül était déterminé à tuer David, et il entraînait toute l'armée d'Israël, majeure partie de l'armée d'Israël, dans cette recherche, dans cette poursuite contre David. À deux reprises, David aurait pu tuer Saül. Il faut dire qu'il est allé un peu partout, David, avec ses 600 hommes, et à deux reprises, il a été là, acculé, dans un, en somme, une impasse, il ne pouvait pas aller plus loin, et il était enserré par les hommes de Saül, mais là, l'Éternel est intervenu, et l'Éternel est intervenu surtout en donnant à David des dispositions de cœur très élevées. Par exemple, il aurait pu tuer Saül deux fois, d'abord dans la caverne d'En-Gedi, 1 Samuel 24, dans la caverne d'En-Gedi. Là, Saül était entré dans cette caverne pour satisfaire un besoin naturel, se couvrir les pieds, c'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Bon. Et puis, David et ses hommes, et c'était une caverne très profonde, certainement, étaient dans le fond de la caverne. Alors là, on dit à David, ses conseillers, lui disent, alors l'Éternel te livre Saül, avance-toi et puis tue-le une bonne fois pour toutes et puis c'est fini. David refuse. Il va couper, vous savez, avec son épée, doucement, un morceau du manteau de Saül. Et puis quand Saül sera sorti, sera un peu loin, il va l'appeler, l'interpeller, puis lui dire, tu vois, si j'avais voulu, tu étais à ma discrétion, je pouvais te tuer. Alors, Saül, sur le moment, est touché, se repent et s'en va. Mais ça ne dure pas longtemps. Dans une autre occasion, c'était dans le camp qui est situé sur la colline de Hakila, 1 Samuel 26, là encore, David pu pénétrer dans le camp de Saül et prendre des objets qui appartenaient à Saül pour montrer ensuite qu'il aurait pu très bien tuer le roi. Et alors là encore, Saül dit à David, tu es meilleur que moi. Oui, mais ça c'est... Il se repent, mais il recommence. Il continue à le poursuivre. C'est plus fort que lui. Alors, il faut dire que vraiment, David a donc manifesté un temps de patience assez prolongé. Il a manifesté d'excellentes dispositions. Il a montré qu'il comptait sur l'Éternel et qu'il ne voulait pas toucher à loin de l'Éternel parce que ça aurait été offenser son Dieu. Et puis d'un autre côté, il ne se voyait pas autorisé à châtier lui en ce moment-là le roi Saül. Ça appartenait à l'Éternel. Il était donc respectueux de la souveraineté de Dieu. C'est quelque chose de très beau. Mais seulement, voilà, il arrive, nous sommes à ce chapitre 27, il arrive qu'il perd courage. Il perd courage. Alors, il se réfugie chez Achish, non selon la foi, non par consultation de l'Éternel, mais par pur raisonnement humain à nouveau. Voilà, chaque fois qu'on quitte la confiance en Dieu et la consultation de Dieu pour prendre soi-même des dispositions, on ne peut pas manquer de faire des choses qui vont avoir de mauvais lendemains. Jusque-là, donc, il avait déjà bien appris à se confier à l'Éternel. L'épreuve avait été longue et dure, mais la foi, vraiment, là, s'épuise et s'interrompt. Et dès que la foi s'interrompt, alors la peur survient. Certainement, Saül va finir par me tuer. Alors, là, dans le camp des ennemis de Dieu, chez les Philistins, David, en somme, a apporté lui-même une solution à sa situation. Il a mis fin lui-même à l'épreuve. Là, vous voyez, Saül apprend que David s'était enfui à Gath et il cessa de le chercher. C'est fini, la solution est trouvée. Elle est humaine. Elle est purement humaine. C'est une solution. Et ça peut nous arriver, découvrir nous-mêmes des solutions à nos difficultés, à des situations qu'on ne voudrait pas voir s'éterniser. Et nous le faisons par pur raisonnement humain. Et quand nous avons pris cette résolution, souvent nous disons, bon, mais ça passe, et la chose est réglée, ça va bien comme ça. Oui, mais c'est toi qui l'as réglé, et tu vas voir ce qui va se passer par la suite. C'est toi qui as réglé la situation, c'est toi qui as pris une décision, tu n'as pas consulté ton Dieu, tu as fait à ta tête, bon, mais tu vas voir les conséquences. Et c'est ce que ce chapitre nous montre. Dans le camp... dans le camp parmi les Philistins, David s'est mis à leur merci. Il est à leur merci. Et lui-même va subir l'entraînement l'entraînement de ce milieu dans lequel il s'est placé et auquel il s'est confié. Il s'est confié au roi Achish. Il va subir l'entraînement. La manière de faire des Philistins, il va l'adopter. Il va l'adopter tout naturellement. Et alors il va se livrer à des incursions avec sa troupe. Il sort du pays, il s'en va chez tel ou tel peuple. Et puis alors que fait-il? Faisait des incursions chez différents peuples et il ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Achish, là, dans sa ville, la ville que Achish lui avait donnée de Tziklag. Voilà ce qu'il faisait. En somme, il était devenu chef de bande. Il se conduit en chef de bande. Il tue même pour éviter qu'il y ait un témoignage défavorable contre lui, que des hommes et des femmes puissent venir chez les Philistins et puis peut-être se plaindre de lui. Hein? Alors il tue tout le monde. Comme ça, il n'y a plus de témoins, personne. C'est abominable. C'est affreux. Le roi David, lui, dont Dieu va se servir pour fonder la dynastie éternelle. Ça montre combien on peut tomber bas. Et pourtant, David va remplir tout de même, va remplir le rôle auquel Dieu l'a appelé. Vous savez, il n'est pas absolument le seul, hein, et pas pour l'excuser, mais enfin, il n'est pas le seul. Il faut bien dire que pour le Dieu, c'est très difficile de travailler avec les hommes qu'il veut sauver. À un certain moment, il les tient par le cœur, alors ces hommes sont bouillants, flambants, puis à un bon moment, ils se découragent. C'est pourquoi souvent la Bible nous dit « prenez bon courage et fortifie-toi dans le Seigneur, fortifiez-vous dans le Seigneur ». Parce que nous sommes exposés, nous dans l'Église tout autant, c'est la même chose, nous sommes exposés à des fléchissements de cet ordre. Et quand nous avons fléchi, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Il ne faut pas accuser ceux qui, les rétrogrades, comme on dit, n'est-ce pas, et ce qu'ils peuvent faire, il ne faut pas les accuser parce qu'on serait peut-être capable de le faire. C'est bien ce que vous dites d'ailleurs l'Évangile, n'est-ce pas? Cela pourrait nous arriver si nous n'étions pas vigilants, si nous ne restions pas attachés au Seigneur, si nous ne pratiquions plus pas régulièrement la piété, méditation de la parole de Dieu, prière. Cela pourrait nous arriver. Je dis qu'il n'est pas le seul. Il faut voir, par exemple, aussi, je ne fais que le mentionner en passant, mais ce prophète Élie. Ah, prophète Élie, on a une haute opinion du prophète Élie. Oui, ben à un moment, il craque aussi, lui. Il craque aussi. Il suffit, quand il a tué, égorgé ses 450 prophètes de Baal, ben, c'est quelque chose, ça, hein, pas après avoir sa démonstration sur le Carmel, il a fait descendre le feu sur son autel, hein. Bon, et il a fait une démonstration devant le peuple que le vrai Dieu, c'est bien l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis, après, ces 450 prophètes de Baal, il les fait saisir et puis il les égorge. Bon. Alors, bien sûr, la riposte ne se fait pas longtemps attendre. Jézabel lui envoie des messagers pour lui dire, voilà, ce que tu as fait au prophète de Baal, voilà ce qu'on va te faire à toi aussi. C'était normal que Jézabel riposte, si vous voulez, il la connaissait bien cette femme, bon. Eh bien, ce qu'elle était. C'était normal il fallait s'y attendre. Bon, mais quand la chose arrive, voilà Élie qui est catastrophé. Il est catastrophé Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il laisse même son serviteur là. Et puis, il s'enfuit, il prend le large. Il s'en va. Et puis, alors, il a des pensées, les pensées spirituelles se sont envolées. Il a les pensées de la chair. Il dit au Seigneur, voilà, moi, je suis resté tout seul, voilà. Tout seul, des prophètes de l'Éternel. Et puis, voilà ce qui arrive. Enfin, on veut m'ôter la vie, à moi aussi. Il gémit, il se plaint. Enfin, il s'en va. Et il faut que Dieu lui envoie un ange pour lui le réconforter avec une certaine galette. Et puis, insiste pour qu'il aille jusqu'à la montagne d'Horeb. Là encore, il apporte ses plaintes. Il est tombé à plat. Hein? Alors, si c'est arrivé au prophète Élie, si c'est arrivé à David, et si c'est arrivé même à d'autres, Abraham, nous l'avons dit, n'est-ce pas? Il est même arrivé un avatar aussi à Moïse, si c'est arrivé à ces grands auxiliaires de Dieu, prenons garde, cela est écrit pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Sachons bien que nous avons besoin constamment de nous appuyer sur l'Éternel, sur notre Seigneur, faute de quoi, nous aussi, nous pourrions être mis par terre. Ainsi a fait David. Ce fut là sa manière d'agir. Voilà ce que nous dit la Bible. Ce fut là sa manière d'agir. C'est comme ça. Voilà, chef de bande, un tueur. Il tuait. Il n'avait absolument pitié de rien. Il avait carrément laissé venir en lui la mentalité d'un chef de bande, d'un chef de bandit, un bandit tout simplement. À un moment, il va partir en guerre contre son peuple, contre son propre peuple. C'est dans le chapitre 28, simplement les deux premiers versets. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Achish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Achish dit à David aussi, « Je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Voilà. Et David est élevé, voyez, à garder personnellement le roi, et il est invité donc avec sa troupe à aller en guerre contre Israël, contre son propre peuple. Alors là, si vraiment la chose se fait, ce sera l'irrémédiable. Ce sera la catastrophe, c'est fini. Parlons plus de David. Ne parlons plus du tout de la mission que Dieu lui a préparée. Mais, bien sûr, Dieu va l'en garder. Dieu ne va pas le laisser quand même faire ça. En effet, je ne veux pas tout vous lire, mais dans le chapitre 29, ensuite, nous voyons que Dieu introduit un désaccord. Les princes des Philistins, voyant David et sa troupe là les accompagner à la guerre contre Israël, ont des soupçons, ils ont peur que David les trahisse. Et alors ils demandent à Achish de renvoyer David. Et Achish est obligé, c'est contre son vœu personnel, mais il est obligé de les renvoyer. Ainsi, donc, David et sa troupe ne vont pas partir en campagne contre le peuple d'Israël. Dieu s'y est opposé. Ça aurait été affreux. Et quand ils reviennent, il y a une petite sanction à la clé quand même, parce que être allé jusqu'à accepter d'aller en guerre contre Israël, c'était déjà une faute très grave. Alors il y a une petite leçon. Quand ils arrivent, la ville de Tziklag, ils la trouvent pillée et incendiée. C'est au chapitre 30. Ils la trouvent pillée et incendiée. Alors, à ce moment-là, chose extraordinaire, devant ce châtiment, David reprend courage. C'est là qu'il va reprendre courage, au chapitre 30 et au verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Le peuple de Tsiklag, c'est-à-dire, en somme, les siens, parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Voilà comment on peut reprendre courage. Il faut s'appuyer, absolument. Il faut s'appuyer sur la pierre précieuse, la pierre à prendre appui. Alors, cette circonstance, voyez, cette épreuve, donc, l'amène à ça. Alors, il va consulter l'Éternel, poursuivre les Amalécites qui ont ruiné Tsiklag. Il va les battre, il va délivrer les femmes, les enfants de tous ces gens, et il va ramener tout. C'est ce que nous dit au chapitre 30, le verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Voilà. Alors la leçon de cette tranche de la vie de David peut être celle-ci. Bien sûr, Dieu, je l'ai déjà dit, il ne faut pas l'oublier quand on étudie David, Dieu a voulu former David à la royauté à travers des épreuves dures, vraiment dures, dures et persistantes. Cette épreuve fut en somme rude et vraiment longue. Et l'épreuve consistait tout simplement en ceci, c'est que la mort courait derrière lui. Voilà. Il avait beau aller à droite, à gauche, je sais pas, la mort, c'est-à-dire Saül avec toute son armée, la mort courait derrière lui. Il était poursuivi par la mort. Vous savez, tout de même, c'est une dure épreuve. Et pourtant, Dieu ne voulait pas qu'il meure. Dieu, bien sûr, avait besoin de lui, voulait se servir de lui. Dieu avait un grand dessein pour David. Il était oint, il avait été oint par Samuel, et nous pouvons dire que la formation de ceux que Dieu choisit et auxquels il réserve une certaine tâche dans ses desseins, la formation est difficile, il faut du temps. Il faut l'insistance de l'épreuve, et l'un des grands moyens de Dieu, c'est de se servir de la mort. La mort. La mort est en vue. La mort se montre. Le péril est là, menaçant. Dieu se sert. Il nous met à l'épreuve de la mort. Paul lui aussi a été à l'épreuve de la mort. Je ne veux pas me prendre les textes maintenant dans 2 Corinthiens 11 par exemple. 2 Corinthiens 11, 23-27, Paul lui-même raconte toutes les péripéties à travers lesquelles il a failli mourir. Mais Dieu gardait David, la mort n'avait aucun pouvoir de le saisir, elle devait l'éprouver seulement. Et ainsi David a pu apprendre la confiance en Dieu pratiquement, pas théoriquement, pratiquement, perdre toute tendance à s'appuyer sur l'homme, c'est-à-dire à revenir au raisonnement, apprendre à consulter Dieu, à l'entendre, ne pas utiliser de mauvais moyens, ne pas non plus céder à la tendance à la tentation de se venger soi-même. David a failli se venger lui-même de Nabal. Nabal qui avait repoussé ses envoyés au moment où il lui faisait demander des vivres pour subsister. Et Nabal, cet homme méchant, ingrat, avait refusé. Et il voulait se venger de lui. Il allait céder à la tentation de se venger. Heureusement, Dieu l'a arrêté par l'intervention d'Abigaïl, qui était la femme de Nabal. Bon, alors voilà pour cette faute, cette première faute, c'est-à-dire toute cette période pendant laquelle, ça a duré plus d'un an, vous voyez, un an et quatre mois, période pendant laquelle David a vraiment là complètement retourné, il a failli, il est devenu un chef de bande. Ça, c'est quelque chose de fantastique. Alors maintenant, nous allons voir sa grande faute aussi. Alors là, au cours de son règne, à la fin plutôt de son règne, c'est dans 2 Samuel 11. Sa faute, elle est de taille. Il faut bien dire que elle est de taille. On peut dire que c'est la grande chute. Un abominable enchaînement de péchés qui, encore une fois, va défigurer la personne du roi David. On peut dire que dans les circonstances que nous venons d'étudier tout à l'heure, le personnage du roi David s'est trouvé véritablement flétri et défiguré. Un chef de bande, c'est qui tue à tort et à travers. C'est véritablement tragique. Et là encore, n'est-ce pas, d'une autre manière, le personnage de David va se trouver réellement flétri, défiguré. Il devient l'opposé de ce qu'il a été. Il devient exactement tout à fait l'opposé de ce qu'il a été. Il agit de façon de plus en plus odieuse. Lui qui avait pourtant à son actif tant de fidèles actions au service de Dieu, qui avait fait montre de tant de sentiments délicats, témoignant de sa crainte de Dieu et de la sensibilité de son cœur dans le respect de la volonté divine. Il avait pu faire tout cela, vraiment. Et puis, le voici maintenant, là, dans ce marasme de péché épouvantable. Le péché est bien un mal terrible. Il est une rage, une véritable rage. Il transforme vraiment l'homme. On voit qu'il transforme l'homme. Il est une rage qui ne respecte rien et qui se joue de l'homme quand celui-ci s'y abandonne. Avoir commis et fait commettre un adultère à Bathsheba ne pouvait que l'entraîner plus loin. Il va falloir cacher la faute, cacher cela. Bathsheba est enceinte et c'est une chose qu'il faut dissimuler. Et pour cela, David va user d'un moyen détourné que son cœur, qui déjà se remplit de ténèbres, va s'ingénier à concevoir. Puis à réaliser en utilisant l'autorité royale qu'il a reçue par l'onction de Dieu même. C'est par son autorité royale qu'il va d'abord demander à Joab de lui envoyer le mari de Bathsheba, Uri. Bon, elle se dit, bon, on va l'envoyer, on va aller dans sa maison, la chose sera couverte. Mais pour servir le péché, L'autorité venue de Dieu ne peut pas servir, ne peut pas être utilisée, ne peut pas. Dieu ne veut pas qu'on utilise son autorité. Il y a des serviteurs de Dieu qui se sont trouvés dans des situations mauvaises, diverses, enfin, des situations de péché, et qui ont voulu aussi dissimuler et se servir de l'autorité du ministère, Dieu s'y est opposé radicalement. On a des exemples, c'est frappant. Je vous les donnerai pas, bien sûr, c'est pas la peine, mais c'est vraiment frappant. Dieu ne veut pas. Tu as commis une faute, tu veux la dissimuler, dissimule-la par des moyens humains, si tu veux, si tu peux. Tu peux y arriver. Mais en te servant de mon autorité, ça non. Là, Dieu est formel. Hein? Dieu est formel. Donc, David ne peut pas réussir à dissimuler sa faute au moyen de son autorité. Et voici que il fait venir Uri, bien sûr, mais il se heurte à la droiture, à la fidélité de cet homme, de ce vaillant soldat, qui est pourtant un Éthien, il n'est pas d'Israël, il est un Éthien. Il se heurte à sa fidélité, et Dieu va donc se servir de la fidélité d'Uri pour lui épargner d'entrer dans les calculs obscurs du roi coupable. Peut-être que dans d'autres circonstances, il n'aurait pas eu le même scrupule d'aller dans sa maison, passer 2 ou 3 jours là, chez lui. Enfin, mais là, Dieu l'arrête. Dieu lui donne une fidélité telle qu'il ne veut pas. Il couche à la porte de la maison royale avec les serviteurs. Il ne peut pas aller chez lui pendant que les autres sont à la guerre. Manifestement, Dieu empêche le plan de David de réussir. Alors, David va être poussé à plus d'abjection encore. Son premier plan était déjà assez abject, mais il va être poussé à plus d'abjection encore. Dissimuler, il faut dissimuler absolument, et dissimuler, c'est ça que le péché veut. Le péché, nous l'avons déjà dit, je crois, est toujours, lui, suivi de dissimulation. Dissimulation. Quand Ananias et Saphira, par exemple, au début de l'Église, eurent menti aux apôtres et au Saint-Esprit, en leur disant, voilà, nous avions un champ, nous l'avons vendu, nous l'avons vendu 1 million, alors qu'il l'avait vendu peut-être 5 ou 6. Bon, nous l'avons vendu 1 million, tu vois, alors le million, le voilà. Puis il s'en gardait 4 ou 5 de côté, n'est-ce pas? Bon, eh bien, ayant commis ce péché, il faut qu'il dissimule. Alors il devait aussitôt, en dehors des regards, se retrouver tous les deux et dire, où va-t-on mettre cet argent? Que va-t-on faire de cet argent? Il faut dissimuler, n'est-ce pas? Voyez-vous, toujours, quand un péché a été fait, il est suivi de dissimulation. Donc il entraîne au mensonge, il entraîne à l'hypocrisie, il entraîne à d'autres péchés. Alors il ne reste plus à David qu'une chose, un seul moyen, le meurtre. Il n'y a plus qu'à tuer Uri, il n'y a plus que le meurtre, il n'y a plus que ça. On en arrive au meurtre. On en arrive toujours à ça. Ça, c'est l'aboutissement final, le meurtre. Et le meurtre, encore, là, c'est là que on voit vraiment l'abjection aller à son comble. Le meurtre d'Uri, on va le provoquer au moyen du dévouement de cet homme. Dévouement à la cause d'Israël, dévouement au combat, on va le mettre au plus fort du combat, et on va se servir de son dévouement pour le tuer. Et pour le tuer alors que lui est innocent de tout, lui qui est un fidèle, le tuer pour couvrir la faute d'un roi qui est devenu impie. Mais la lumière sera faite. Dieu veille. La lumière sera faite. Le roi se verra contraint d'avouer son crime par l'intervention du prophète Nathan. Et mieux, c'est que Dieu a voulu que tout le récit, sans que rien n'en soit omis, figure dans la Sainte Écriture. On dit quelquefois il y a des choses qui ne sont pas belles dans la Bible. Mais parce que Dieu veut que ces choses figurent. Il ne veut pas qu'elles soient cachées. Dieu ne fait pas d'hypocrisie, j'ai déjà dit, c'est le livre de la vérité. Il faut qu'elle figure. Et Dieu aurait pu dire, par son Saint-Esprit, aurait pu vouloir que son Saint-Esprit, mettons, fasse abstraction de ça. Non. Le récit en entier doit figurer là. C'est une chose, d'ailleurs, qui a étonné beaucoup de gens qui ne sont pas des gens de foi particulièrement, ne croient pas à l'inspiration plénière des Écritures, mais toujours quand même, cette remarque est revenue, tiens, le peuple d'Israël qui écrit son histoire ne manque jamais d'étaler toutes les fautes et tous les crimes qu'il a commis lui-même. Il n'a rien dans son histoire, il n'a rien dissimulé, il n'a rien caché, il étale tout. Et c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a voulu cela. Donc la faute de David sera étalée là dans le livre de la vérité, afin que les siècles en aient l'entière connaissance et qu'ils soient instruits. Voyez-vous ? Que nous soyons instruits. La faute, cette faute énorme, comme la précédente d'ailleurs, de David, nous instruit. D'autant plus que cet homme, donc, a réalisé une partie magnifique de l'œuvre de Dieu. Il l'a réalisé. Il l'a réalisé. Hein? Et c'est bien sur son trône que va s'asseoir ce fils qui doit régner éternellement, donner à l'empire d'Israël, de David, un accroissement, c'est pas, et une durée sans fin. Voilà ce qui était annoncé au royaume de David, à l'empire de David. Et puis la promesse est formelle, et quand arrive la nouvelle alliance, alors l'ange Gabriel vient dire à Marie qui va enfanter l'enfant Jésus, et il va lui dire: il s'assiera sur le trône de David son père. Et il règnera éternellement, et son règne n'aura point de fin. Il s'assiera sur le trône de David, son père. Vous voyez, donc, toute cette œuvre faite par l'Éternel au moyen de David subsiste, elle a vraiment été réalisée. Mais le diable s'est rué sur lui. Le diable, quand il a pu trouver le moment, il l'a saisi à bras-le-corps, il l'a roulé dans la boue. C'est pour ça qu'il ne faut pas, se précipiter à juger, même dans notre temps, si nous voyons des gens tomber. Comme dit Paul dans les chapitres 14 des Romains, s'ils tombent, ce n'est pas à toi de juger. Hein. Son maître a la puissance de le relever, et il le relèvera. Ne faut pas oublier ça. Instruit que nous sommes, donc, quant à la justice de Dieu, quant à savoir que même si l'œuvre d'un homme a été longuement fidèle, si cet homme vient à s'égarer jusqu'à pénétrer dans l'océan du péché et à s'y engloutir, eh bien la justice de Dieu l'atteindra. La justice l'atteindra toujours. La justice l'atteindra, elle jettera la lumière sur son abomination et se montrera inflexible. Il ne restera plus que l'imploration du pardon de Dieu dans la repentance et l'acceptation du châtiment dans l'humiliation. C'est bien ce que David fera. Il se repentira, vous connaissez le psaume 50... Hein? 51. Le psaume 51 qui est écrit justement dans les circonstances d'après cette faute. Hein? David accepte vraiment l'humiliation, il se repent. Vous me direz, oui, mais il aurait mieux valu qu'il évite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais nous sommes dans un temps où le diable ne vous rate pas. Le diable ne vous rate pas. C'est pourquoi il faut prendre très au sérieux ce que dit Paul dans Éphésiens 6. L'équipement pour se prémunir contre le diable. Hein. D'abord se fortifier dans le Seigneur et puis prendre sur soi toutes les armes défensives, la cuirasse de la justice, le casque du salut. Qu'est-ce qu'il y a, l'épée qui est la parole de Dieu, et puis le bouclier de la foi pour arrêter les traits enflammés du malin, prendre tout cela, il faut ce soit, attention, c'est de la pratique que nous enseigne là, dans ce chapitre 6 des Éphésiens, nous enseigne Paul, c'est vraiment de la pratique ça, il faut y penser. Il ne faut surtout pas dire, comme je l'ai entendu à certains, moi, comprenez, je suis chrétien depuis un moment, déjà, maintenant ça va, hein, je crains rien, ça va, oui, je crains rien. À un bon moment, le diable va te mettre par terre et tu vas voir si tu crains rien. Alors, il faut penser aussi que Dieu veut relever ces serviteurs qui sont terrassés par l'ennemi. Nous avons dans les Écritures des promesses formelles à cet égard. Nous avons par exemple dans le psaume 37, le psaume 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Voyez-vous, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Dans le psaume 94 aussi, psaume 94, verset 18, « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui, quand les pensées s'agitent, en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Voyez, quand mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Nous avons aussi le psaume 145, verset 14. « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Voilà, une belle promesse aussi, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Bien sûr, cela suppose qu'il se repent, naturellement. Sans repentance, je sais pas, il n'y a rien à faire, parce que alors l'orgueil est là. L'orgueil est là. Mais s'il y a repentance, vraiment, eh bien l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Nous avons aussi dans le Proverbe 24, verset 15 et 16. « Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose, car sept fois le juste tombe, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Voilà, le livre des Proverbes nous parle même de sept fois le juste tombe et il se relève par la grâce de Dieu. Nous avons aussi Michée, chapitre 7 et verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Vous voyez encore là un passage qui nous montre toujours que l'Éternel entend relever ceux qui tombent. Nous avons aussi, on peut évoquer aussi cette parole du Seigneur Jésus à Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. J'ai prié pour toi. Eh bien, nous savons que Pierre, lui aussi, est tombé, évidemment, dans quelles circonstances était-il, mais enfin, il est tombé, n'est-ce pas ? Il a renié son maître avec imprécation, et le Seigneur l'a relevé, l'a remis en mouvement dans la voie du service. Il y a d'autres textes encore qui ne viennent pas absolument à l'esprit maintenant, mais enfin, nous voyons, n'est-ce pas, que Dieu ne tient compte quand même de ce qu'on a fait, n'est-ce pas, de la fidélité qu'on a montrée. S'il arrive une malheureuse affaire, ce n'est pas que il ne faille pas de l'éviter avec tous ses soins, hein. Et on peut l'éviter. Mais enfin, s'il arrive une mauvaise affaire, eh bien, Dieu, cependant, sera là pour relever. Nous avons vu des cas de gens qui sont tombés et que Dieu a relevé. Voilà. Eh bien, je crois que nous allons pouvoir nous arrêter maintenant.